moins 2 vendredi le 14 juin. Ça sera la deuxième grève féministe de l'histoire suisse, après celle de 1991. Une grève dont bon nombre de femmes et d'hommes, pour laquelle bon nombre d'hommes et de femmes se préparent dans plusieurs villes de Suisse.
Alors même si beaucoup de choses ont évolué depuis, il existe encore beaucoup de discriminations et d'inégalités, comme par exemple au niveau du congé maternité, paternité, l'AVS ou encore le droit d'asile.
Et avec nous ce matin, Emmanuel Ullmann, membre du collectif biennois pour justement la grève des femmes du 14 juin. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous faites partie de ce collectif qui met en place cette journée. En 2019, même si l'égalité est inscrite dans la Constitution depuis 32 ans, ça ne s'améliore pas assez.
Alors oui, il y a eu des améliorations depuis la dernière grève, mais l'égalité est encore loin d'être un fait dans de nombreux domaines. Et tant que l'égalité de fait ne sera pas atteinte, eh ben, il y aura toujours des femmes pour se battre pour ce but. Pour atteindre l'égalité dans les faits, ce n'est pas seulement des théories et des discours dont on a besoin, mais on aimerait des actes concrets. Des actes qui conduisent à un changement profond de la société suisse, qui est actuellement l'une des plus arriérées d'Europe, d'après le dernier rapport du Forum économique mondial sur l'écart entre les genres.
Donc ça veut dire que vous expliquez comment ce nouvel élan, parce que finalement on s'est battu, on se bat toujours, mais on s'est battu il y a quelques années, et aujourd'hui les inégalités reviennent au devant de la scène, il y a de nouvelles revendications, il y a les mouvements comme MeToo. Comment vous expliquez justement que ce nouvel élan de dénonciation arrive aujourd'hui?
Ben, les femmes ne sont pas aveugles, elles observent la société, elles sont aussi toujours de mieux en mieux formées, ce qui est quelque chose qui s'est amélioré d'ailleurs. On voit, nous les femmes, que nous vivons dans une société où les rôles hommes-femmes sont extrêmement stéréotypés. Les hommes sont forts, entreprenants, les femmes sont douces et attentives. Eux, ils aiment le bleu et le football, puis elles aiment le rose et le shopping. On entend beaucoup ce genre de choses. Et on entend ceci en permanence, c'est ressassé dans les écoles, dans la littérature pour enfants, dans la littérature tout court, dans la publicité, dans les médias, et même chez votre gynécologue. Par exemple, quand j'ai eu ma fille il y a 10 ans, j'ai reçu une jolie revue qui s'appelait « Maman ». Seulement.
Pas papa.
Ouais, non, papa, non, non, papa, non. Et puis, dans cette revue, il disait, si jamais, après l'accouchement, vous arrivez un peu, c'est un peu difficile après l'accouchement, si jamais vous avez un peu de peine, vous pouvez demander de l'aide à votre maman ou à votre belle-mère.
Ouais, bon, la belle-mère, non. On peut en demander au papa, effectivement. Ça veut dire que, justement, là, au niveau de l'actualité, il y a tous les jours des exemples de ces inégalités, de ces discriminations, parfois, de ces stéréotypes. Un des derniers exemples, c'est les difficultés pour mettre en place un réel congé paternité en Suisse. Ça commence par là, l'égalité, c'est vraiment le modèle familial qu'il faut rénover, remettre le rôle du papa à égalité avec celui de la maman dans ses plaisirs et dans ses difficultés. C'est la première chose à faire pour qu'il y ait un changement de fond dans la société.
Exactement, je pense que le jour où les hommes prendront leurs responsabilités, parce que finalement les enfants on les fait à deux, et s'engageront plus dans la garde des enfants, mais aussi dans la répartition des tâches dans les ménages. Le jour où ils se rendront compte de ce que ça représente comme travail, comme investissement, ça changera beaucoup de choses.
Mais il y a quand même beaucoup de papas aujourd'hui qui se rendent compte de ce que ça représente, qui aimeraient bien peut-être prendre plus de place, mais l'emploi ne le leur permet pas forcément. Il faut le reconnaître aussi qu'il y a des changements, des avancées.
C'est clair que pour le moment, la société est comme ça. Les hommes sont aussi éduqués comme ça, et les femmes aussi, à accepter la situation telle qu'elle est. Mais en fait, pour beaucoup d'hommes, je sais, souffrent de cette situation. Mais je leur dis toujours, mais pourquoi tu n'as pas le courage de t'opposer à ça si ça ne te convient pas? C'est vraiment la pression de groupe qui compte, là. Et puis, il faudrait vraiment... que les hommes prennent leur courage à deux mains et qu'ils se battent pour leurs droits, quoi. Et par exemple, là, il y a une chose pour le congé paternité qui serait quelque chose de très important. Il y a une année, le Conseil fédéral a invité une fois de plus les chambres fédérales à rejeter l'initiative pour un congé paternité raisonnable, qui demandait d'accorder au moins un mois de congé paternité. Et dans son communiqué de presse, il expliquait qu'il valait mieux augmenter l'offre de crèches plutôt que ce soit les pères qui doivent s'occuper de leurs enfants. Et je vous laisse deviner de qui est majoritairement composé le personnel mal payé des crèches.
Oui, effectivement. Il y a des élections fédérales cette année.
Oui, heureusement. Ouais. On se réjouit beaucoup. Et puis aussi, le Conseil fédéral, dans ce communiqué de presse, il dit qu'un tel congé entraînerait en outre des charges supplémentaires pour l'économie et affecterait l'organisation des entreprises. Mais par contre, on voit qu'envoyer tous les hommes à l'armée pendant 245 jours, soit environ 8 mois, n'a l'air de poser aucun problème à l'économie. Alors, on voit que la bataille est un peu difficile quand on a affaire à des ministres qui sont de mauvaise foi.
Alors justement, on parle de ce congé paternité, c'est une vraie bataille évidemment, mais est-ce que vous pensez que notre époque contribue à la discrimination? Parce que vous avez un manifeste, donc ce manifeste qui dit que l'économie a pris le dessus par rapport à l'humain. Est-ce que les femmes en sont les premières finalement à en souffrir?
Alors oui, les femmes souffrent énormément, sont les premières à souffrir notamment du changement climatique. Aujourd'hui, on ne pourra pas régler les grands défis de nos temps si on ne considère pas le monde comme un système global. Il faut vraiment qu'on réalise que lorsque nous consommons n'importe quoi et n'importe comment ici, cela a des conséquences désastreuses, principalement dans les pays défavorisés qu'on exploite. Le dérèglement climatique, c'est une des conséquences de ça. Ça touche les pays pauvres de plein fouet et ça contraint énormément de gens à la fuite. Notamment, la moitié des réfugiés aujourd'hui sont des femmes. Des femmes qui se retrouvent sur les routes, souvent enceintes, accompagnées d'enfants et qui subissent des conditions de vie extrêmement difficiles. Pour ces femmes, par exemple, sur les routes qui sont très peu sûres, de migration, dans les camps, le fait d'aller aux toilettes ou d'aller chercher de l'eau représente un problème de sécurité. Elles se font souvent violer simplement en allant aux toilettes.
Jusqu'à 9h, format A3.
Et nous sommes de retour avec Emmanuelle Ullmann.
En marge de la grève féministe de vendredi, le 14 juin, on aborde plusieurs thèmes. Par exemple, la place et les droits des femmes migrantes.
Alors Emmanuelle Ullmann, on l'a évoqué tout à l'heure, le chemin parcouru par une femme migrante, que ce soit vraiment la trajectoire qu'elle va effectuer, alors quand elle sera dans des camps de réfugiés, c'est encore extrêmement difficile et plus dangereux que le parcours d'un homme. Elles sont pas assez mises en lumière, on parle pas assez d'elles et on les protège pas assez.
Non, on les protège pas assez, bien qu'il y a évidemment des choses qui sont faites à ce niveau-là, des discussions au niveau ONU, au niveau de la coopération, développement, aide humanitaire, évidemment, c'est un thème qui les intéresse et ils essayent vraiment d'apporter des solutions à ça, mais la situation est extrêmement complexe. Et puis c'est pas encore assez pris au sérieux. Dans les faits, on en discute beaucoup, mais en fait, il se passe pas grand-chose, quoi.
Justement, on en parlait tout à l'heure, du viol des femmes. Alors, c'est considéré comme une arme de guerre, autant dans les pays en conflit que dans les camps de réfugiés en Europe aussi. Alors, est-ce que, selon vous, c'est un combat qu'on doit mener aussi le 14 juin, même si finalement, ça ne nous touche pas directement, nous?
Alors oui, pour moi, c'est une évidence que ça, c'est un sujet que nous devons défendre. Le viol comme arme de guerre, c'est un crime contre l'humanité qui doit être dénoncé et puni. On croit souvent que le viol dans les conflits, c'est quelque chose qui arrive en marge des conflits, sans vraiment que ça se fasse vraiment exprès, parce que les soldats sont stressés, frustrés. Ils vivent aussi des situations extrêmement difficiles, les soldats. Hein. Mais c'est loin d'être là le problème. Le problème, c'est que le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose de planifié par les cadres des armées et ensuite qui est mis en œuvre. C'est en fait de la tactique militaire. Dans de nombreux pays d'Afrique, c'est une méthode très efficace pour briser les communautés ennemies. Étant donné qu'une femme qui a été violée, elle est considérée comme souillée. Elle est donc rejetée de sa communauté. Et puis ces femmes ensuite errent de par les routes. Et souvent, elles abandonnent aussi les enfants qui sont nés de ces viols. C'est aussi un problème. Et tout ça est vraiment d'une tristesse infinie. On voit que même les communautés qui subissent ces violences sont elles-mêmes victimes de leur propre sexisme, en fait.
Donc elle se retrouve en plus de la douleur, du traumatisme, complètement isolée socialement. Certaines prennent le chemin de l'exil, un chemin qui est évidemment parsemé d'embûches. Et le parcours de la combattante n'est pas terminé une fois qu'elles arrivent dans des pays comme la Suisse.
Alors non, là, le parcours n'est pas terminé. Déjà, comme migrante en Suisse, on n'est pas forcément très bien reçu. Les migrantes ici sont souvent exposées au rejet, au racisme, au sexisme. Et d'ailleurs, là, je salue, en fait, ça nous réjouit beaucoup qu'un groupe de femmes musulmanes qui se sont appelées elles-mêmes les foulards violets ont rejoint le mouvement de la grève pour défendre leurs droits. Et elles dénoncent par la même occasion le sexisme, le racisme et l'islamophobie dont elles sont victimes au quotidien. Et là, il convient de les saluer, de saluer leur courage. Et nous, on leur adresse tous nos sentiments de sororité et de soutien.
Alors justement, on le disait, quand elles arrivent ici, il y a non seulement justement ce racisme, ce sexisme déjà parce qu'elles sont des femmes, et ce racisme parce qu'elles sont étrangères, parce qu'elles peuvent avoir une couleur de peau différente, elles peuvent être de cultures différentes et de religions différentes. Et ça veut aussi dire qu'il y a des formes de discrimination qui vont venir lorsqu'elles voudront travailler. Les femmes migrantes, on va leur donner que des petits travaux, des travaux ménagers, des travaux de soins, alors que peut-être elles ont des diplômes.
Oui, alors il y en a qui ont des diplômes même très bons. C'est juste que ces diplômes en Suisse ne sont pas reconnus. Un médecin, par exemple, ou une médecin iranienne va devoir refaire toutes ses études en Suisse pour pouvoir accéder à un métier qui n'est pas dans les nettoyages. Donc c'est quand même fou qu'il n'y ait pas de reconnaissance de diplôme, etc., qu'on n'arrive pas à alléger la procédure, là. Ouais, c'est assez un problème, quoi, pour ces femmes.